Fernand Cortés, conquistador espagnol, par Jean d'Ivray. En l'année 1485, au bourg de Medellín, au cœur de l'Estramadour, Doña Catalina Pizarro, Altamirano, épouse légitime du capitaine Martin Cortés de Monroy, mit au monde un fils qui reçut au baptême le nom de Fernand. De petite noblesse, évidemment, ces Cortés se classaient pourtant très au-dessus des autres familles, où l'on trouve habituellement les conquistadors de ce XVe siècle, féconds en aventuriers de toutes sortes. L'origine des Cortés reste peu connue. Il semblerait bien pourtant qu'elle se rattache non point à l'Espagne proprement dite, mais à la race des conquérants qui, tour à tour, passèrent les Pyrénées, Francs, Lombards ou Goths. De l'enfance de notre héros, les historiens nous apprennent peu de choses. Sa bravoure allait même jusqu'à la témérité. Sur son front pâle, une volonté implacable était écrite. Dans ses yeux brillait la flamme de l'énergie. Après de bonnes études, dont le latin faisait le fond le plus sûr, il s'adonnait aux armes qui, seules, tentaient sa vigueur magnifique. Écuyer admirable, coureur habile, il fatiguait les plus intrépides de ses compagnons. Il possédait sur eux tous un ascendant remarquable et la froide énergie qu'il déployait dans les exercices les plus périlleux ajoutait encore à son prestige, achevant de faire de lui un véritable chef, de ceux sous les ordres duquel il semble impossible de ne point marcher. Nous sommes au moment où s'ébauchent les plus folles aventures. Fernand Cortés, à 7 ans, entend compter autour de lui les miraculeuses découvertes de Christophe Colomb. Saint-Domingue, la Jamaïque, la Guadeloupe, autant de noms qui frappent étrangement son imagination de bambin. Il en a 12 à peine, quand du Portugal proche, se répandent les histoires fabuleuses qui courent sur un autre navigateur, Vasco de Gama. Ce dernier vient, par le cap de Bonne-Espérance, d'atteindre les Indes que Christophe Colomb a cherché en vain. Cortés n'y tient plus. Il a hâte de partir, lui aussi, de tenter l'extraordinaire aventure. Quand aura-t-il l'âge de s'enrôler dans la troupe des conquérants? En attendant, il ronge son frein, et à Salamanque, où ses parents l'ont envoyé finir ses études, il décroche tant bien que mal son diplôme de bachelier. Mais le dieu de la guerre est en lui et le tourmente. Il a maintenant 17 ans. Rien ne saurait plus le retenir. Malgré sa famille, malgré son oncle, le sage Francisco Núñez de Valera, à qui il a été confié, Fernand s'enrôle dans l'armée sous le drapeau de Gonzalve de Cordoue. Il apprend qu'une flotte se prépare à lever l'ancre pour le Nouveau Monde. Il court se présenter à Nicolas de Wando, qui la commande et signe son engagement. Mais Fernand n'a pas accompli sa 20e année. Il est à l'âge où l'amour parle plus fort que la volonté. Il aime en secret une jolie fille. La duègne qui la garde favorise un dernier rendez-vous. Avant d'entreprendre un si long voyage, faut-il au moins prendre congé? Cortés se rend la nuit dans le jardin de sa belle. Pour y pénétrer, il faut passer par-dessus le mur, car le tuteur a fait verrouiller les portes. N'importe, l'amoureux ne craint point les difficultés. Il se prépare à l'escalade, glisse et se blesse cruellement en tombant. Relevé et soigné par des mains charitables, il put, durant sa longue convalescence, méditer sur les dangers que la passion peut faire courir à l'ambition. Quand il se retrouva sur pied, il était guéri en même temps de sa chute et de ses amours. Il n'attendait plus que l'occasion de voguer à nouveau vers son destin. Enfin, une occasion lui est offerte. Il s'empresse de la saisir. Un des lieutenants de Wando, Diego Velázquez, est nommé gouverneur de l'île de Cuba, récemment conquise. Cortés demande à l'accompagner en qualité de secrétaire. Après maintes disputes, maintes algarades, où constamment Cortés sut avoir le dessus sur son nouveau maître et amasser une petite fortune, il demande à diriger l'expédition que Velázquez a résolu de tenter vers les terres inconnues. Le motif invoqué était d'aller à la recherche des soldats espagnols capturés par les Indiens. En réalité, les récits entendus dans l'île l'avaient fait tourner les têtes. On savait à présent, à n'en point douter, qu'un pays aux trésors fabuleux se trouvait non loin de là, et que ceux qui parviendraient à y aborder et à s'en rendre maître seraient plus puissants que l'empereur lui-même. Ces dangers n'effrayaient personne. Cortés insufflait sa flamme aux hommes qui l'accompagnaient. 6 vaisseaux mirent à la voile. Des armes, des canons, des provisions de toute espèce furent embarquées et la petite flotte quitta Cuba aux applaudissements de la foule. Entre-temps, Fernand s'était marié à la fille d'un colon récemment établi à Cuba, Don Juarez de Grenade. La jeune épouse, Doña Catalina, ne pouvait, hélas, faire partie du voyage. Trop de périls l'eussent menacé. Fernand Cortés réalisait enfin son beau rêve, être son seul maître, ne plus connaître d'autre loi que sa volonté. Dans une des premières îles où l'on aborda, la petite flotte vit venir à elle, dans un canoë indigène, deux des Espagnols capturés. Seuls survivants de l'hécatombe, tous les autres avaient été massacrés. L'un de ces hommes, marié à une indigène, avait fait souche de petits sauvages et adopté la vie des habitants du pays. L'autre, Jeromo de Aguilar, demeuré fidèle à sa religion et à sa patrie, était devenu esclave des caciques et parlait maintenant tout leur dialecte. Il allait servir d'interprète à ses compatriotes et Cortés se réjouit de l'avoir rencontré. Sa fidélité à Cortés ne se démentit dans aucune circonstance. Le vendredi saint, 21 avril 1512, date à jamais mémorable dans les annales de la conquête, les troupes débarquèrent sur l'emplacement où s'élève aujourd'hui Veracruz. Ici eut lieu le premier contact avec cette race aztèque qui, malgré ses mœurs sauvages, ses habitudes de cannibalisme, se montraient égales et souvent supérieures à la race espagnole, sous le rapport de l'organisation et des arts. Devant les merveilles de construction, les trésors de ciselure qui leur furent montrés, les nouveaux venus ne purent cacher leur admiration. La vue des objets d'or et d'argent si finement travaillés, les masses de pierres précieuses qui passaient sous leurs yeux éblouis, éveillèrent la convoitise des moins avides. Cette terre représentait une telle source de richesses qu'on la voulait posséder sans contrôle. Le désir de convertir ce peuple à la foi chrétienne se mêlait à la volonté bien arrêtée de lui prendre ses richesses. Bien accueillis d'abord par les envoyés du roi Montezuma, une des plus nobles figures du temps, les Espagnols ne tardèrent pas à abuser de l'hospitalité qui leur était si généreusement offerte. L'entrée de Mexico, d'abord interdite aux étrangers, leur fut enfin permise et là, l'émerveillement des troupes acheva de leur faire perdre la raison. L'histoire de la conquête, les luttes affreuses qui s'ensuivirent, ne trouveraient pas leur place dans ce court article, mais en faisant la part de la justice, il faut dire que Cortés se montra constamment à la hauteur de la tâche qu'il s'était imposée. Son courage n'avait d'égal que son extraordinaire endurance. Il était venu croyant réduire en quelques jours un ennemi ignorant et faible. Il se trouvait en face d'hommes ayant atteint, malgré leurs pratiques barbares et leur naturelle cruauté, le summum de la civilisation sous le rapport des connaissances techniques. Montezuma lui-même, au moment de la conquête, gouvernait avec la plus grande sagesse des royaumes immenses, soumis entièrement à ses lois, et s'étendant d'un océan à l'autre. Mexico comptait plus de 60 000 maisons et 300 000 habitants. Trois fois Cortés prit et perdit la ville de Mexico. Entre-temps, le conquistador avait abordé dans différentes îles, occupé quantité de terres, dont le trésor allait grossir les richesses de l'Espagne. Le Mexique ne fut définitivement pacifié qu'après 7 années de lutte où des deux côtés se déployaient à la même ardeur, doublée, il faut bien le dire, de la même férocité. Les Espagnols avaient vu leur fureur portée à son comble par le sacrifice des prisonniers immolés aux idoles par les Aztèques qui, après avoir arraché le cœur des victimes, se régalaient de leur chair. L'épouvante d'un tel destin, s'ils venaient à tomber entre les mains de leurs ennemis, doublait le courage des assaillants. Mais, si les Indiens avaient pour eux le nombre, les étrangers dont diverses flottes étaient venues peu à peu augmenter les effectifs avaient l'artillerie et les chevaux, chose inconnue des Aztèques. La conquête du Mexique a achevé la destruction d'une race qui, malgré son culte abominable, méritait un meilleur sort. Fernand Cortés, malgré son triomphe, ne connut pas beaucoup plus de chance que son prédécesseur Christophe Colomb. On l'accusait d'exercer sur les indigènes une trop grande influence et, le croirait-on, on lui reprochait surtout d'avoir fait ajouter aux prières pour la famille royale cette phrase « et Duce exercitus nostri ». De retour à Cuba, après s'être occupé de l'avenir de ses officiers, il retrouva sa femme, Doña Catalina, qui mourut d'ailleurs peu après. Revenu en Espagne, il reçut de son souverain l'accueil le plus gracieux. On lui attribua un magnifique domaine et il épousa en dernière noce Doña Inana de Guniga. Mais la fièvre de l'aventure tourmentait encore le conquistador. Il repartit. Là, mille soucis l'attendaient. Aux accusations déjà portées contre lui venaient s'adjoindre des griefs beaucoup plus graves. On faisait courir le bruit que Doña Catalina n'était point morte de mort naturelle, mais que son volage époux, trop longtemps accoutumé à une complète indépendance sentimentale, l'avait envoyée dans l'autre monde à l'aide d'un poison indigène. Son brillant mariage en Espagne était aussi sans doute prémédité. Enfin, le malheureux conquérant ne voyait autour de lui qu'ingratitude et traîtrise. Méprisant l'insulte, il se retira dans un de ses domaines, dont la nouvelle terre offrait le secret, retraite fleurie, où il s'occupa de coloniser en acclimatant des plantes et des arbres d'Europe. Il ne s'endormit pas longtemps dans cette existence végétative peu faite pour lui. Il se mit en route et, étape par étape, s'appliqua à la connaissance exacte de ce pays du Mexique dont il rapporta d'excellentes observations. Mexico, deux fois détruite, était maintenant entièrement rebâtie et commençait de présenter l'aspect d'une ville espagnole. L'Espagne, pourtant, attirait encore cette nature insatiable. Il voulut y revenir. Cette fois, Charles Quint le reçut à peine. Le Pérou, qu'un autre, Francesco Pizarro, venait de découvrir, occupait uniquement l'esprit de l'empereur. L'or du Mexique pâlissait devant l'éblouissement offert par les mines péruviennes. Fernand Cortés voulut une dernière fois reprendre la mer, s'en aller mourir là-bas, dans cette terre qu'il avait conquise. Il n'en eut pas le temps. L'âge, les fatigues, les amertumes de toutes sortes avaient enfin raison de ce tempérament de fer. Cortés dut s'aliter à Séville. Il y expira le 2 décembre 1547 dans les bras de son fils Don Martin. Bien des reproches ont été faits à sa mémoire. Elle n'est peut-être pas sans tâche, mais il ne faut pas oublier que ce qui, à notre époque, peut passer pour un crime de lèse-humanité, comptait pour bien peu de choses dans l'esprit des hommes des 15e et 16e siècles. Ses contemporains ignoraient la pitié. Du moins, Cortés se montra-t-il constamment brave entre les braves et travailla-t-il uniquement pour la gloire de sa patrie, et cela seul suffit à l'absoudre. Ainsi s'achève Fernand Cortés, conquistador espagnol, par Jean d'Ivrée.